Les disciples sont sur une barque et ils rament. Ils rament contre les vents qui sont contraires. Toute la nuit, ils ont ramé. Au petit matin, ils sont épuisés. C'est alors que Jésus s'avance vers eux et leur dit « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Il peut arriver, notre foi, d'être fatigué. À trop ramer contre les vents contraires, nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples, alors qu'ils étaient épuisés à force de ramer. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, tu connais notre nuit. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance, viens pour ranimer la foi. Viens Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et nous chantons « Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison ». Nous louons Dieu avec le psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs. Que le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Amen. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. C'est le psaume 118, page 136, dont nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4. Prenez place. Bienvenue à vous, à chacun, chacune d'entre vous pour ce temps de culte. Et nous accueillons tout particulièrement les scouts, les aînés, c'est ça, hein ? Je ne me trompe pas. Alors, ils ont ensuite une proposition à vous faire, mais on vous en parlera tout à l'heure. Plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Nous prions. Je n'en peux plus, Seigneur. Je suis rompu. Je suis brisé. Depuis ce matin, je lutte pour échapper à la tentation qui, tour à tour, discrète, persuasive, sensible ou sensuelle, danse devant moi comme une fille aguichante devant les baraques foraines. Je ne sais plus que faire. Je ne sais plus où aller. Elle me guette, elle me suit, elle m'envahit. Je déserte une pièce et est assise et m'attend dans celle où je pénètre. Je saisis un journal et elle est là, cachée sous les mots d'un article anodin. Je sors et la rencontre qui me sourit derrière un visage inconnu. Je tourne le dos et regarde le mur, elle surgit d'une affiche. Je rentre pour travailler, elle somnole sur mes dossiers et je la réveille en prenant mes papiers. Ma désespérée, ma pauvre tête entre les mains, je ferme les yeux pour ne rien voir. Mais je la découvre plus vivante que jamais, installée comme chez elle, dans ma maison fermée, car elle a forcé la porte de chez moi, elle s'est glissée dans mon corps, dans mes veines, jusqu'au bout de mes doigts. Elle s'insinue dans le creux de ma mémoire, elle chante à l'oreille de mon imagination. Elle joue sur de mes nerfs comme des cordes d'une guitare. Je ne sais plus où j'en suis, Seigneur. Je ne sais plus si je veux ce péché qui me fait signe. Je ne sais plus si je fuis ou si je cours après. Le vertige me saisit et le vide m'attire comme il attire l'imprudente alpiniste qui ne peut plus avancer et ne peut plus reculer. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Nous restons assis pour chanter « De tous mes maux, il me guérit ». Mon petit, je suis là. Je ne t'ai point quitté. Comme tu as peu de foi. Tu es trop orgueilleux. Tu comptes encore sur toi-même. Si tu veux passer à travers toutes les tentations sans tomber, sans faillir, calme et serein, il faut que tu démissionnes entre mes mains. Il faut que tu reconnaisses que tu n'es pas assez grand, que tu n'es pas assez fort. Il faut que tu acceptes de te laisser guider comme un gosse, mon petit gosse à moi. Allons, donne-moi ta main et ne crains rien. S'il y a de la boue, je te porterai dans mes bras, mais il faut que tu sois tout petit, car le Père ne porte que les petits-enfants. Ô ma joie et mon espérance! Porté par Dieu, écoutons la voix qu'il nous propose. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. De ton esprit, emplis nos êtres. Place. Deux lectures pour aujourd'hui, la première dans le livre de la Genèse et la seconde dans l'évangile de Luc, toutes les deux lectures au chapitre 18. Ce ne sont pas les lectures proposées pour ce jour et je dois présenter mes excuses d'avance à deux, trois personnes d'assistance parce que c'est la prédication que j'ai faite samedi dernier. Alors, excusez-moi. Deux passages connus, mais pas les plus connus du monde, mais connus quand même. Et je vous propose, avant de les lire, de prier. Enfin, d'abord, un père de l'Église a dit un jour, Dans les paroles de l'Écriture se trouve caché le royaume des cieux. Il se découvre à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les psaumes et les lectures. Tout ce par quoi l'esprit reçoit d'ordinaire l'illumination. Nous prions. Seigneur, éclaire-nous. Si ton royaume est caché dans l'Écriture, accorde-nous la grâce d'entendre la parole, d'étudier la parole, de creuser la parole, de mâcher la parole, de respirer la parole. Que maintenant ton esprit éclaire notre esprit. Amen.
Genèse, chapitre 18, versets 20 à 33. Le Seigneur dit : Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence du Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et le Seigneur dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il juste 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et le Seigneur dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et le Seigneur dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et le Seigneur dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et le Seigneur dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et le Seigneur dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Le Seigneur s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Luc 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, éprouvera-t-il la foi sur la terre ?
Souffle du Dieu vivant. Prenez place. J'imagine que nous avons tous été témoins, voire victimes, d'une telle scène. Dans un magasin, un enfant veut une sucrerie, sa mère, ou parfois son père, refuse. Le morveux insiste, se met à trépigner, à pleurer, à hurler. Là est gêné. Le parent, A ou B, cède et offre à son enfant l'objet de son désir. On m'a rapporté que j'étais moi-même très bon à ce jeu-là. Enfin, le parent qui cède sait très bien qu'en cédant, justement, il ne le fait pas pour le bien de son enfant, mais pour son confort personnel. Et même peut-être pour son confort personnel à court terme. De même, le juge de la parabole, le bien de la veuve, l'honneur de Dieu, sa propre intégrité, n'ont pour lui aucune espèce d'importance. Il cède, tel le parent de tout à l'heure, parce qu'il veut être tranquille, pour éviter peut-être un peu le scandale du voisinage. Il n'a pas envie que cette veuve obstinée vienne, pour reprendre le texte, lui casser la tête. Alors, je ne sais pas vous, moi c'est un peu, ça me surprend un peu qu'on compare Dieu à un tel individu, quelqu'un d'un peu, quand même, peu fréquentable, assez sinistre. Bref, il est comparé, certes, mais sur le mode du combien plus. Le combien plus, vous connaissez le combien plus. Il peut être méprisant, le combien plus, c'est « Ah ben si machin y est arrivé, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. » Vous voyez ? Voire à la limite de l'insulte, évidemment quand c'est vous que ça concerne, si tu y es arrivé. Hein. Mais il peut aussi être biblique. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Si ce mauvais juge, ce juge corrompu, ce juge inique, pour reprendre les vieilles traductions, cède à la juste demande de la veuve, combien plus Dieu fera-t-il justice à ses élus qui crient vers lui ? Qui crient vers lui pour réclamer ce qu'il a promis, l'établissement de son royaume de paix, de justice et d'amour. Or, à bien regarder autour de nous, il peut bien sembler que ce royaume tarde un peu à venir. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tant de fois répété implorer que ton règne vienne. Nous sommes bien forcés de reconnaître que l'accomplissement de cette prière se fait un peu attendre. Alors, que nous dit Jésus ? La solution, nous dit-il, c'est de continuer à prier. La prière incessante. La prière incessante, ainsi que les demandes répétées, nous paraissent, à nous qui de culture réformée, souvent un peu dérangeante. On se méfie de son côté trop religieux, trop superstitieux, de sa conception trop magique. On veut ne pas avoir l'air de forcer la main de Dieu, qui d'ailleurs sait mieux que nous ce qu'il a à faire. Ou alors, peut-être pour certains, cette pratique nous semble un peu suspecte de catholicisme, un peu comme réciter son chapelet. Or, nous l'affirmons haut et fort. Notre prière, nous le savons, n'est pas un acte magique, et Dieu sait ce qu'il a à faire. Bon, soit. Mais alors, peut-être serait-il temps de se demander pourquoi nous prions. La plupart des religions, peut-être toutes même, connaissent et pratiquent la prière. Elle n'a rien, la prière, de spécifiquement chrétien. Pourquoi prions-nous ? Nous avons déjà exclu un certain nombre de raisons, l'acte magique, le rituel strict ou la superstition. Nous ne prions pas non plus pour être en règle avec Dieu, pour avoir notre quota de prière quotidien et d'actes pieux. Comme il m'est difficile de parler de la vie spirituelle personnelle de chacun, chacune d'entre vous, considérons ce que nous avons en commun, nos célébrations. Dans nos cultes, nous avons l'habitude de distinguer, en gros, deux types de prières. La prière d'intercession, tournée vers les humains, la prière de demande, plus largement, disons la prière de demande tournée vers les humains, et la prière de louange, elle, tournée vers Dieu uniquement. L'action de grâce a pour objet la bonté de Dieu, l'intercession, la faiblesse des humains. On peut raisonnablement imaginer qu'on pratique un peu de la même façon dans le secret de nos cœurs et de nos chambres. Mais pratiquons-nous la prière de la veuve ? Une prière qui ne va pas dans le sens du courant. Une prière contre Dieu lui-même, à l'image d'Abraham qui résiste à Dieu dans l'affaire Sodome. Et s'il ne reste 50 justes, puis 45, 40, 30, 10, 20 et 10 ? Ce n'est pas une prière de demande, ni une prière d'action de grâce, mais c'est une prière de refus. Le refus de l'injustice, du découragement, du fatalisme. J'aime beaucoup ce passage avec Abraham, parce qu'on dit « Ah, il marchande ». Non, il ne marchande pas du tout. Quand vous marchandez, chacun fait un pas vers l'autre. Donc, chaque fois qu'un Dieu fait un pas vers lui, hop, il descend, il exagère. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi s'est-il arrêté à 10 ? Ne pouvait-il pas aller jusqu'à 1 ? Après tout, Sodome ne valait-il pas la peine d'être sauvé s'il y avait au moins un juste ? D'ailleurs, elle l'aurait été, puisqu'il y avait Lot. Peut-être que vous faut être drôlement courageux pour Abraham, comme Abraham, pour oser dire à Dieu comme ça. Mais peut-être qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son courage. Ou peut-être son courage a fait défaut vers la fin. Mais aucun reproche à Abraham, mais on peut se poser la question s'il avait été. Puis même à l'arrière, il a dit, s'il n'y a pas de juste, en fait, il en manque qu'un. Est-ce que ça va pénétrer une ville parce qu'il manque un juste ? Peut-être sommes-nous tous comme Abraham courageux, mais parfois manquons-nous d'audace dans nos prières. À l'exemple de la pauvre veuve, nous sommes invités à ne pas nous décourager, à ne pas accepter l'injustice, à ne pas l'accepter comme une chose normale et oser exiger que justice soit faite. À l'exemple de Job, nous devons empoigner Dieu et l'obliger à nous répondre, pas à se justifier, il n'a pas à se justifier devant nous, bien évidemment, mais à nous aider à comprendre et à nous aider à agir. La prière de refus, c'est exiger que l'impossible devienne possible. C'est le cri de l'Évangile, une prière qui dénonce et refuse le mal. Et cela sans jamais se lasser, ni se laisser décourager. La prière est le métier du chrétien. Le chrétien doit prier comme le cordonnier fait des chaussures et le tailleur des costumes, disait Martin Luther. Priez sans cesse. Alors évidemment, attention, cette parabole de Jésus n'établit pas une comparaison entre Dieu et le juge corrompu. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Le sens n'est pas là, mais bien dans la question finale du Christ. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là la vraie question. Y aura-t-il quelqu'un qui, comme la veuve, frappera jour et nuit à la porte d'une maison où elle sait qu'il y a quelqu'un qui peut rendre justice, même s'il semble que ce quelqu'un ne soit pas disposé à l'écouter? L'élu de Dieu n'est pas représenté dans cette parabole comme un héros juste résistant triomphalement à la tempête déchaînée contre lui, mais bien comme cette pauvre veuve, sujette à toutes les malversations et à tous les mépris, qui n'a son recours que dans la persévérance et la prière. Être choisi par Dieu ne signifie pas traverser l'existence avec stoïcisme ou indifférence, sous prétexte que nous ne sommes pas de ce monde et que nous savons où nous allons. Être élu consiste à refuser l'injustice et surtout à refuser le discours qui dit que si ces choses sont ainsi, c'est que Dieu les a voulues ainsi. Il n'y a pas de pire blasphème que de croire ou de laisser croire qu'une injustice peut plaire à Dieu ou même le laisser indifférent. Ceux qui se résignent au triomphe du mal dans ce monde abandonnent et trahissent l'Évangile. Et c'est hélas une tentation que chacun de nous a au quotidien. Et parfois, nous y cédons. La veuve, elle, ne se résigne pas, ni devant l'injustice flagrante de sa situation, ni devant l'indifférence du juge. Il nous a été dit, frappez, l'on vous ouvrira. Mais que faisons-nous? Oh, nous avons bien frappé à cette porte, une fois, deux fois, 100 fois peut-être, pour les plus persévérants. Mais si personne n'a ouvert au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, voire semaines, nous en concluons qu'il n'y a personne et que notre démarche est vaine et notre prière inutile. Mais cette invitation de Jésus ne signifie pas « dès que vous aurez frappé, on vous ouvrira », mais bien « frappez jusqu'à ce qu'on vous ouvre, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez ». Et non pas chercher et paf, vous allez trouver, non. La foi, c'est la confiance dans l'adversité. Mais la pire des adversités, c'est souvent le temps. Beaucoup ont une foi ardente pendant 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être. Mais combien l'ont eu jusqu'au bout? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsqu'il reviendra, serons-nous encore en train de frapper à cette porte ou aurons-nous déjà décrété qu'il n'y avait personne? Bien sûr, on entend souvent dire, quand on demande quelque chose à Dieu, il nous répond toujours, mais pas toujours de la façon dont nous l'aurions souhaité. Cette phrase témoigne, selon moi, du malaise que nous avons à ne pas voir nos prières exaucées. Dieu serait-il sourd? Ou n'aurions-nous pas assez de foi? Alors on préfère dire « oui, mais il a répondu d'une autre manière ». Mais on oublie souvent que dans la prière, ce n'est pas la réponse de Dieu qui est première. C'est d'abord notre prière. Notre prière est un témoignage de notre foi et de notre refus de nous laisser décourager. La prière est le signe de notre persévérance. La question n'est pas de savoir si Dieu répond ou non à nos prières, mais elle est de savoir si nous prierons jusqu'au bout, si le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera la foi sur la terre. Alors, un peu, peut-être, pour ne pas trop nous déprimer, Jésus nous rassure toutefois. Il leur fera, il vous fera justice bien vite. La prière n'est jamais inutile, quelle qu'elle soit. Elle est témoignage de notre foi, foi que le Fils de l'homme souhaite trouver à son retour. Alors même si la fatigue nous gagne, si la lassitude s'empare de nous, ne nous décourageons pas. Reprenons notre souffle, relevons-nous et recommençons à frapper. Soyons-en convaincus, il y a quelqu'un qui nous écoute. Amen. Je vous invite à chanter le 34-29, 34-29, page 467, « Victoire au Seigneur de la vie ». Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi, celle qui porte le numéro 3 et qui commence par « Dieu est amour ». Dieu est amour. Par amour, notre Père crée le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de l'humanité. Son esprit rend responsable et libre pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. L'Église, comme artisan de vérité et de pardon, parmi les hommes et les femmes, comme artisan de justice et de paix, dans le royaume qui vient, comme témoin de sa fidélité. Dieu aime d'amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Plein de reconnaissance, apportons notre offrande et les signes de notre joie. Père, nous te remercions pour chacun de tes dons. Voici notre offrande. Accorde-nous de la traduire dans la vie de notre Église en gestes qui parlent de toi. Amen.
Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin. Merci à Claude Françoise qui nous a réjouis avec l'orgue. Merci à Agnès qui m'a aidé pour l'accueil. Cette semaine, nous avons accompagné la famille de Bertrand pour le service funèbre qui a eu lieu jeudi. Et puis, cette semaine, nous avons appris aussi le décès de la maman de Vincent. Alors, merci à Vincent d'avoir assuré ce culte ce matin et sois sûr que de notre amitié fraternelle. Cette semaine, mardi, il y a la prière matinale à 7h. Et la chorale à 19h15. Mercredi, il y a la prière à 18h. Jeudi, il y a l'étude biblique à 20h au temple. Donc venez nombreux, c'est très intéressant. Une petite annonce concernant les couronnes de l'Avent. Donc, leur confection sera ce mercredi à 16h et la décoration des couronnes samedi matin. Voilà. Et la vente de ces couronnes aura lieu dès dimanche prochain. Dimanche prochain, il y a également c'est un dimanche des familles, donc il y aura le caté pour les enfants. Et puis, un peu plus loin, le samedi d'après, il y aura le concert des Alpes, ici, dans ce temple. Donc, n'hésitez pas à inviter du monde. Et aussi, le même jour, dans la petite salle, il y a une vente au profit de Madagascar, par Agnès Schild. Voilà, il me reste à demander aux scouts de venir faire leur annonce.
Bonjour à tous, donc nous sommes les scouts et nous sommes en train de préparer notre projet pour notre fin d'année qui sera tourné donc vers le social. Donc nous partons pour un projet solidaire. Vous savez, on ne sait pas encore où tout ça, mais donc on cherche des financements. Et donc, principalement, on a fait tourner des annonces comme quoi, si vous avez besoin de de la main-d'œuvre ou quoi, on serait là pour vous aider avec plaisir. Donc, ça peut être du jardinage, de la peinture ou tout autre type. Et voilà, merci.
Si, et à la fin du culte, on a préparé des petits gâteaux. En sortant, donc si vous avez une petite faim ou quoi, n'hésitez pas.
Vous les vendez, hein?
Ouais, on les vend. Vous êtes prix libre. Et on a aussi on a récupéré une crèche. Si quelqu'un est intéressé, on peut la vendre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.
Oui, j'insiste pour les couronnes de l'Avent, c'est dimanche prochain, parce que sur l'affiche qu'il y a dans le journal, dans Noël, c'est marqué la semaine d'après. Donc c'est bien ce premier dimanche de l'Avent, hein, le 30 sera le premier dimanche de l'Avent, c'est là que les couronnes seront vendues. Je ne suis pas sûr qu'il en reste pour après. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, nous te louons de nous avoir donné Jésus pour que nous puissions nous asseoir à ses pieds. Peut-être ne savons-nous pas encore très bien notre bonne part, notre part d'éternité. Mais nous pouvons déjà la deviner en notre prochain meurtri, démuni, à la dérive, notre prochain arrogant, duplice, blessant. Ordonne-nous de croire à sa part d'éternité, à cette flamme indestructible qu'il ne sait pas. Donne-nous d'y croire vraiment, pour que la vie redevienne possible, pour que naisse la paix du dedans, la plus contagieuse. Nous nous tenons devant toi dans le silence, le cœur et l'esprit en communion avec les personnes qui nous perturbent et nous inquiètent, pour que tu nous ouvres les yeux sur leur part d'éternité. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillons la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. Et unis dans une même foi à toi, dans la même consacration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs s'élèvent vers toi, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et pour le chant final que nous chanterons après. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Allez en paix. Tu nous appelles.
Bon dimanche à tous.